Bonjour et bienvenue dans l'univers captivant de la plasturgie avec le podcast du Salon FIP, le salon de l'innovation et de la plasturgie, qui aura lieu du 4 au 7 juin prochain à Lyon Eurexpo. Ici Steven Delbeau, prêt à vous faire découvrir les coulisses de l'industrie des plastiques et des composites à travers des rencontres exclusives. Dans chaque épisode, nous invitons un acteur clé de la plasturgie. Décideurs, entrepreneurs et même journalistes, ils viendront partager leurs expériences, leurs défis et leurs perspectives sur ce secteur en pleine transformation. Attendez-vous à des discussions riches, à rebours des idées préconçues et des simplifications excessives. Nous irons au cœur des enjeux tout en gardant un œil sur l'impact environnemental et les innovations durables. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à rencontrer ceux qui font bouger la plasturgie. C'est parti pour une nouvelle interview passionnante de notre podcast. Et cette semaine, j'accueille deux intervenantes, Emmanuelle Perdry, présidente du groupe Iléance et ancienne présidente de l'Union des transformateurs de polymères Polivia. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Je ne l'ai pas mentionné dans votre présentation, mais vous serez également cette année présidente du Salon FIP, mais on en reparlera. Et j'accueille également Stéphanie Collot, qui est directrice du pôle industrie chez InfoPro Digital, et donc à ce titre, organisatrice notamment du Salon FIP. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Steven.
Merci à toutes les deux de participer à ce podcast. Peut-être qu'on va commencer à rentrer directement dans le vif du sujet par vos parcours, et notamment Emmanuel. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous raconter comment vous êtes devenue présidente du groupe Iléance?
Oui, bien sûr. Donc Emmanuel Perdry, moi j'ai 53 ans, 3 enfants. Il y a une bonne vingtaine d'années, j'ai intégré l'entreprise familiale qui avait été créée en 1946 par mon grand-père. En tant que responsable administrative et financière. Donc, je suis rentrée en 99 chez Rovip. Et 20 ans après, j'ai eu l'opportunité d'opérer un rapprochement avec un confrère plasturgiste du Jura, puisque Rovip est installé dans l'Ain. Et on a créé en 2021 le groupe Iléance, issu donc du rapprochement de Rovip et de Millet Forestier. Aujourd'hui, je suis donc présidente de ce groupe qui représente 250 collaborateurs et donc 5 sites de production dans l'Ain et dans le Jura. Voilà très rapidement un peu le cursus. Donc moi, mon profil plutôt bien sûr finance compta vu que j'ai commencé par ça, mais passionnée d'industrie et passionnée de plasturgie aujourd'hui.
Quels sont les marchés d'Iléance et puis notamment les plus porteurs?
Alors, Iléance, la caractéristique, déjà, peut-être préciser qu'on est injecteur, mais on fait aussi de l'extrusion soufflage. Donc, on a deux technologies au sein du groupe, avec une amplitude de parc machine assez importante, que ce soit sur l'injection ou sur l'extrusion soufflage. Ça veut dire qu'on fait aussi bien de la petite pièce que de la grosse pièce. Et avec des usines qui sont spécialisées par technologie et par marché. Donc, en fait, on a à peu près la moitié de l'activité sur les marchés du bouchon, capsules, dosage, etc. pour les marchés agroalimentaires, santé cosmétique, mais également chimie, hygiène et entretien de la maison. Voilà, donc ça, c'est une bonne moitié de l'activité sur la partie plus bouchon capsule. Et sur le reste de l'activité, on fait de la pièce technique industrielle, soit en pièce en injection, soit en extrusion soufflage, donc pour les marchés du bâtiment, pour les marchés de la voirie, de la sécurité, pour les marchés de la piscine, pour un certain nombre de marchés. On est comme beaucoup de plasturgistes français, très diversifiés. Donc, dans des contextes de variation et de difficultés parfois sur certains marchés, cette diversité, c'est une force. Et la force d'Iléance, c'est grâce à cette création d'Iléance d'arriver quand même à spécialiser nos usines par savoir-faire.
Comment se fait d'ailleurs la répartition de votre chiffre d'affaires sur ces différents marchés? Enfin, grosso modo, qu'on puisse avoir une idée.
Oui, alors je disais, donc on a près de 40% du chiffre d'affaires qui est sur les marchés bouchons capsules, on va dire, donc sur les marchés de l'emballage, que ce soit pour l'agroalimentaire, la cosmétique santé et puis chimie entretien. Et puis après, on a 25% de chiffre d'affaires qui est un peu sur le marché du bâtiment. On a à peu près autant sur ce qu'on appelle notre marché environnement, aménagement extérieur, avec la voirie, avec la sécurité, avec des choses comme ça. Et puis le reste, c'est sur des marchés industriels diversifiés, aussi bien le marché, par exemple, des bouteilles de gaz GPL que les extincteurs ou d'autres marchés de ce type.
Et le marché le plus dynamique, celui qui se développe le mieux?
Alors, de façon assez surprenante, je dirais le marché quand même de l'emballage, qui, même si... Il est en ce moment un peu interrogé par les enjeux réglementaires et les enjeux de décarbonation liés à l'emballage plastique. C'est quand même un marché qui est relativement porteur parce que c'est un marché de consommation, je dirais, courante. Le marché du bâtiment souffre depuis quelques mois. Voilà, on le sait au niveau national, ça se voit chez les plasturgistes aujourd'hui. Et sinon, globalement, les autres marchés se tiennent bien. Nous, on finit l'année 2023 plutôt bien, dans le sens où l'activité a été correcte, même si elle n'était pas très élevée, mais correcte, et avec un niveau de rentabilité qui est meilleur que l'année précédente, puisque les matières ont des niveaux plutôt bas en 2023. Donc, globalement, les perspectives sont... On va dire que ce n'est pas l'euphorie, mais en même temps, il y a une forme de consolidation du business qui est plutôt intéressante.
Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de l'emballage et puis donc intrinsèquement aussi de l'image que peut avoir le plastique à travers dans la société. En tant qu'industriel, quelles sont les actions que vous mettez en place pour changer cette image du plastique ?
Alors, je ne sais pas si on cherche à la changer, cette image du plastique. En tout cas, on cherche surtout à valoriser ce qu'on fait, à donner du sens à ce qu'on fait. La baseline de Ileans, c'est donner un nouveau sens au plastique. Donc, ça vous donne un peu l'idée de plutôt notre démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà historiquement, Rovip, on est très engagé autour de toutes les actions en lien avec l'environnement, la réduction des gaspillages. On est ISO 14001, ISO 50001. On a engagé une démarche RSE depuis de nombreuses années. Donc, je dirais que c'est des choses au niveau de la façon dont on transforme, dont on travaille. On essaye au maximum d'avoir une approche qui va réduire l'impact environnemental de nos actions. Et je dirais que sur l'aspect plus image plastique, depuis quelques années, on a engagé un travail autour des produits eux-mêmes que nous fabriquons pour essayer d'être force de proposition vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des marchés, en lien avec la stratégie 3R, donc être force de proposition pour l'incorporation de matières recyclées, être force de proposition pour réduire la part matière, le poids de nos pièces, et être force de proposition pour aussi proposer des produits plastiques qui soient plutôt réemployables, réutilisables, plutôt que jetables. Voilà, je dirais, ce qu'on a entrepris au niveau de l'entreprise, au niveau d'Ileans aujourd'hui.
Alors, c'est un sujet que vous avez pas mal développé chez Polivia pendant les années où vous avez été présidente, oui. C'est-à-dire les trois dernières années. En plus, c'était un, oui. Vous avez été un peu à l'origine de la création de Polivia.
Pas toute seule, mais oui.
Vous avez notamment conçu son positionnement, sa stratégie, sa communication, mais donc, comme vous l'avez dit, avec une équipe. Comment est-ce que vous avez pensé cette organisation qui compte aujourd'hui 1400 entreprises quand même?
Alors, je rappelle quand même que Polivia, c'est issu d'un rapprochement. Finalement, on voit que j'aime bien les rapprochements parce que j'en ai eu chez Ileans. Il y a eu aussi ce rapprochement, je dirais, des organisations professionnelles. Et donc, Polivia, c'est le rapprochement d'interrégions, hein, Alizé, Plastiouest et Gipco, avec la Fédération nationale de la plasturgie et des composites. Donc, finalement, le positionnement et la stratégie de Polivia, il est dans la continuité de ce qui était déjà initié en particulier au sein de la Fédération nationale plasturgie et composite sur tous les enjeux d'économie circulaire, de décarbonation, de plastique bashing, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je crois que cette organisation, moi, je l'ai pensée d'abord et avant tout au service des adhérents, donc au service des entreprises qui légitime, en fait, c'est nos adhérents qui nous légitiment. Donc, essayer de développer des services au niveau du syndicat, mais aussi une offre de formation et une offre de services qui répondent aux besoins de nos adhérents pour les accompagner dans leurs grands enjeux. Et pour moi, l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est un enjeu de transformation sur plein de sujets. On doit devenir attractif pour arriver à recruter. On a des enjeux de compétences, de recrutement. On a des enjeux, bien sûr, autour de l'image plastique. On a des enjeux autour de l'aide décarbonation. Enfin, finalement, les enjeux que je vis au quotidien dans les entreprises, moi, j'ai toujours imaginé, alors je pense à juste titre, que ces enjeux-là étaient partagés par beaucoup de plasturgistes. Et donc, notre syndicat, le réseau et le syndicat devaient développer des outils pour accompagner les TPE, les PME, puisque je rappelle qu'au niveau de la plasturgie, la taille moyenne des entreprises en France est de 36 salariés, hein, donc on est vraiment confronté à un tissu de PME, de TPE sur l'ensemble des territoires français. Donc voilà, l'enjeu, il est là pour moi, et on, on a construit, on a porté Polivia autour de cet enjeu de proximité et de réponse aux besoins de nos adhérents, que ce soit sur le champ du politique en défendant certains sujets un peu touchy au niveau politique, mais aussi dans ce qu'on est capable de leur apporter dans leur quotidien au plus près d'eux.
Alors, vous l'avez dit, hein, donc du coup c'est à la fois donc un enjeu vis-à-vis de l'externe, mais aussi un enjeu vis-à-vis de l'interne. Est-ce que aujourd'hui les dirigeants de ces entreprises, ces PME, ces TPE, ces ETI dans le plastique, ils ont conscience de cette transformation nécessaire et comment est-ce qu'ils se sont engagés dedans ces dernières années?
Alors, je crois que de façon assez lucide et honnête, je suis pas sûre que on soit tous au même niveau par rapport à ça. D'une part, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que pour les gens les plus impactés par cette transformation, elle est pas facile à mener, à porter, parce qu'elle est très impactante. Elle nécessite souvent beaucoup d'investissements, donc ça génère des vraies questions et des vraies problématiques pour un dirigeant. Je pense qu'en effet, il y a quand même encore aujourd'hui des freins importants pour arriver à la mener, cette transformation. Et donc, du coup, je dirais que je ne suis pas sûre que toutes les entreprises soient à peu près au même niveau ou dans la même facilité de la mener et de la porter. D'où l'importance du syndicat pour accompagner, d'ailleurs, hein, pour se dire ceux qui ont moins de moyens, moins de facilité, moins d'outils, et outillons-les parce que de toute façon cette transformation, si on veut pérenniser la filière et la développer aujourd'hui, elle est indispensable.
Stéphanie, vous organisez le salon FIP qui aura lieu du 4 au 7 juin prochain à Lyon Eurexpo. Comment, dans ce contexte, vous préparez ce salon?
Ah, écoutez, ce que je peux vous dire, Steven, c'est que toute l'équipe est dans une forme olympique. C'est la thématique du moment. En tout cas, voilà, pour préparer cette édition 2024, on a vraiment hâte de retrouver nos exposants, nos visiteurs, nos partenaires pour 4 jours de business. Et puis au-delà du business, il y a une forte notion de convivialité, vous qui connaissez bien le salon. Ce que je peux vous dire également, c'est en jugé par les inscriptions, que ce soit du côté des visiteurs ou des exposants, cette édition promet d'être à la hauteur de celle de 2022, qui, juste pour rappel, a été la plus grande de son histoire. On est dans un état d'esprit très positif et à nouveau, on a hâte que les visiteurs puissent se trouver, en plus des 800 exposants qui vont être présents sur le salon, beaucoup de contenu. Comme le soulignait Emmanuel à l'instant, il y a beaucoup d'enjeux autour de la filière et chacun de ces enjeux seront traités sur le salon, lors de conférences, d'ateliers. Qui permettront aux visiteurs de faire le plein et d'informations et d'innovation.
Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux sujets en particulier que vous allez développer qui seront importantes lors de cette édition?
Alors évidemment, on parle énormément de recyclage, de décarbonation, d'économie circulaire. Ça, ce sont vraiment les thèmes phares et forts de cette édition, qui sont donc des sujets cruciaux pour nos exposants, pour nos visiteurs et pour nous, bien sûr, organisateurs, qui vont être traités de manière très, je dirais, très concrète. Encore une fois, et en termes de contenu présenté sur le salon et en termes d'actions concrètes qui seront menées. Et puis on a aussi beaucoup de nouveautés sur le salon, puisqu'au-delà des innovations présentées par les exposants, on a cette année l'idée d'organiser, d'ailleurs avec l'aide de nos partenaires et notamment Polivia et Polymeris, ce qu'on appelle des learning expéditions. Alors l'objectif, il est simple, hein, c'est de pouvoir accompagner et guider les visiteurs en quête de solutions sur un marché utilisateur précis, comme on a évoqué l'emballage, ça pourrait être le transport, le médical, à travers le salon. Emmanuel évoquait le fait qu'effectivement, on s'adresse à des marchés très vastes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller faciliter le parcours du visiteur. Hein. On est sur le FIP est un salon immense qui regroupe beaucoup d'exposants. Il faut pouvoir guider les visiteurs qui sont à la recherche souvent de réponses à des problématiques assez précises. Et dans le même esprit, voilà, on a une expo cette année qui s'appelle l'Expo Technolab qui présentera des pièces, des produits qui illustrent les différentes techniques de transformation pour les différents marchés que nos exposants adressent, que ce soit l'automobile, la santé, le sport et le loisir, etc.
Ok. Parmi les sujets que vous avez abordés du coup dans votre présentation, enfin à l'instant quand on a parlé des sujets, pardon, vous avez parlé de recyclage, d'économie circulaire. C'est vrai que ça fait partie des sujets un peu phares dont on parle beaucoup dans la plasturgie ces dernières années, qui font partie de la transformation qu'on a évoquée tout à l'heure avec Emmanuel. Quelles sont les actions concrètes que vous allez mettre en place sur le salon?
Alors, plusieurs actions qui seront d'ailleurs dans le prolongement de ce qu'on a initié sur la dernière édition du FIP. Donc, nous, en tant qu'organisateurs, il y a évidemment des sujets de récupération de moquettes, des pièces, hein, plastiques, hein, évidemment. Ça va aussi jusqu'à récupérer les pochettes plastiques des badges des exposants, des visiteurs. Donc, tout ça, ce sont des actions, je dirais, assez basiques, mais qui doivent être faites afin de réduire l'empreinte carbone des événements. Ce qu'on va mettre en place, évidemment, c'est le renouvellement du parcours FIP Valorise qui liste et qui met en avant les exposants qui proposent des solutions en faveur de l'économie circulaire. Évidemment, donc on l'a dit, des sujets qui seront traités lors des conférences et des ateliers. Et le 6 juin à 16h, vous pourrez découvrir les lauréats du FIP Green Award, qui est une nouveauté sur le salon, qui récompensera les démarches RSE des entreprises qui sont présentes sur le salon. Donc, beaucoup de choses à voir sur ces 4 jours d'événements.
Bon, bah, j'espère que vous avez noté la date du coup pour ces FIP Green Awards le 6 juin. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à Emmanuel pour la présidence du FIP cette année? Et puis, quel sera son rôle exactement?
Alors, je pense que c'est assez évident quand on écoute Emmanuel. Je dirais qu'au-delà de sa vision et de l'engagement dont elle a fait preuve pour structurer, pour mobiliser la filière au travers de la création de Polivia, c'est une personnalité forte qui s'est fédérée, qui sait faire passer des messages et véhiculer des valeurs fortes. Voilà, pour nous il était évident de faire appel à Emmanuel qui a eu la gentillesse d'accepter d'endosser ce rôle et puis évidemment bah, sur place concrètement elle sera présente à nos côtés pour accueillir les différents institutionnels et politiques qui viendront sur l'événement à la rencontre de nos exposants.
Ok. Emmanuel, du coup, vous, comment est-ce que vous abordez cette présidence? Comment est-ce que vous souhaitez l'aborder? Comment est-ce que vous la voyez, cette présidence de FIP?
Bon, écoutez, moi, déjà, je l'aborde très bien, très sereinement, on va dire. J'ai presque flattée qu'on pense à moi, dans le sens où, pour moi, c'est quand même un bel événement. Je suis ravie finalement de pouvoir contribuer, de pouvoir porter collectivement avec toute l'équipe d'InfoPro Digital cet événement et avec toute la filière parce que pour moi c'est un événement fort. La filière plasturgie en France a besoin de ce type d'événement, d'avoir l'occasion de se retrouver, de faire corps pour peut-être pour justement faire la preuve de ce qu'on est capable de faire, de nos innovations, de cette transformation que j'ai évoquée à plusieurs reprises. Finalement, quoi de mieux qu'un salon pour faire la preuve des transformations engagées et de ce que chacun, à notre niveau, transformateur, membre filière, donc tout l'amont aussi, hein, tous les fournisseurs de la filière, et puis tous nos donneurs d'ordre qui seront là, finalement, c'est une formidable occasion de prouver, de montrer que la plasturgie innove, que la plasturgie a de l'avenir, que le plastique est un matériau utile, voire indispensable à la décarbonation.
Ok, vous avez un peu répondu du coup à la question que je voulais vous poser en conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte ce salon à la filière.
Il est essentiel pour moi ce salon, j'y tiens énormément. Je pense que c'est aujourd'hui le seul salon plasturgiste, on va dire généraliste en France. Après, les autres salons, c'est en Allemagne, très clairement. Donc, je pense que toute la filière doit se mobiliser pour que ce salon soit une réussite parce qu'on a besoin, je l'ai dit, on a besoin de se retrouver et on a besoin de pouvoir montrer tout ce qu'on fait. Et tous nos efforts pour contribuer positivement à cet engagement de décarbonation de l'ensemble de l'industrie française. Et ce salon FIP, c'est une occasion unique qui est donnée à la filière d'être présent en termes de communication et de vision très transverse de tous les marchés, de tous les métiers. Donc c'est pour moi essentiel.
Du coup, vous allez, en tant que présidente, prendre votre bâton de pèlerin et puis vous balader dans le salon, aller rencontrer un peu tout le monde et puis en faire la promotion aussi, peut-être un peu en amont, c'est ça ?
Oui, voilà, tout à fait, en amont. Je pense aussi, je souhaiterais que le monde économique et politique régional, mais plus largement, soit sensibilisé et marque son intérêt pour aussi cet événement. On va essayer bien sûr d'inviter largement nos confrères et collègues d'autres industries, d'autres branches professionnelles, du MEDEF et puis le monde politique pour qu'ils viennent justement voir tout ce qu'on fait. C'est important. Et puis aussi, j'ai mon bâton de pèlerin aussi pour convaincre l'ensemble de la filière de vraiment être présent à l'événement. Et puis aussi, j'espère apporter mon éclairage sur la façon dont on peut communiquer et construire les messages pour faire venir les donneurs d'ordre, puisque la réussite d'un salon passe aussi par le visitorat et par le fait que l'ensemble des exposants trouvent aussi du sens dans les contacts qu'ils vont pouvoir créer avec leur client ou leur futur client. Ces trois enjeux, hein. Réussite à travers le nombre d'exposants et la qualité des exposants, réussite à travers le fait qu'on arrive à attirer le monde économique et politique, et puis réussite aussi à travers un visitorat de qualité pour que les exposants n'aient qu'une envie, c'est que ce FIP se renouvelle le plus rapidement possible.
Merci beaucoup. Stéphanie, juste quelques chiffres sur le salon pour nous permettre de l'aborder de manière un peu factuelle.
Alors, quelques chiffres, 800 exposants, 10 000 visiteurs, 4 jours et du 4 au 7 juin 2024 à Lyon Rexpo.
Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci Emmanuel et Stéphanie pour cet échange.
Merci à vous.
Merci.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du FIP Podcast.